Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là et Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Bon,
je pense que cette année tu l'avais pas prévu ta finale 100% allemande, hein.
C'est pas fait quand même. Le favori, je pense, le retour.
Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu vas l'avoir, Polo.
Mais lorsque j'annonçais que le Borussia Dortmund dans la phase de groupe était le favori pour finir quatrième, c'est sûr que j'avais pas vu qu'ils allaient aller.
Ils avaient fini pour mettre la poule. Hein.
Ouais, ouais, mais, faut le rappeler, mais quand même, oui, mais il faut.
Bon, enfin, hier soir, tu nous as dit hier soir que tu voyais le Paris se qualifier. Tout le monde le disait pensais, d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Hein.
Ouais, enfin, me mets pas dans tout le monde parce que moi je donne des arguments.
Non, mais tu l'as dit quand même.
Ouais, oui, mais Polo, je donne des arguments.
Mais Polo, parce qu'il a
joué pas la presse française.
Mais au fond de lui, ça, c'est pas une équipe de Baltring Dortmund. C'est intelligent, Polo. C'est intelligent.
Mais c'est bien de dire ça, Daniel, parce que si tu veux, moi, je suis un peu malheureux pour toi ce soir parce que les années passent et le PSG remporte pas la Ligue des Champions. Je suis malheureux pour mes potes du PSG, les anciens, les plus de 50 ans, etc., parce que je sais qu'ils souffrent ce soir. Mais je suis pas malheureux sur ce que j'entends depuis plus d'une semaine sur le Borussia Dortmund, qui en gros est une équipe de Baltring, quoi. Donc, vous l'avez dit, j'ai envie de dire enfin, Gilbert, c'est la cinquième défaite du PSG cette saison en 12 rencontres. J'ai voulu le dire hier soir, mais j'ai pas eu le temps parce que le temps
ça était.
Parce que, en fait, c'était pas.
J'étais à 4 hier.
J'étais à 4 hier, oui, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce soir? Ben, je suis extrêmement déçu, évidemment, comme beaucoup de personnes, par la prestation du PSG. La première mi-temps, il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien. Donc, si tu veux, quand tu es Terzic et que tu joues ton 4-3-3 en contre, bon, ben, t'es très content de voir ce qui se passe. En plus, tu vois que le ballon circule pas si mal que ça, même si, encore une fois, je trouve que les deux équipes, en première mi-temps, ne jouaient pas libérés. Il y a beaucoup de fautes techniques, de ballons perdus un peu bêtement de la part des deux équipes, etc. Ensuite, bon, il y a un truc quand même. Le joueur du match aller, il a 35 ans, c'est Mats Hummels. Le joueur du match retour, il a 35 ans, il marque le but. C'est Mats Hummels qui est aujourd'hui, qui ne devrait pas voir l'Euro 2024 parce que Nagelsmann n'en veut pas, mais qui,
lorsqu'il est obligé d'aller super vite, hein, Polo, hein, pour bien jouer.
Et tout à fait. Mais regarde le match qu'il fait ce soir quand il va, c'est lui qui enlève le ballon à Mbappé, c'est lui qui lance les tacles au bon moment, etc. Quand il fait le tacle sur Dembélé, c'est à la limite du penalty, etc. Et en fait, ce soir, vous avez parlé, enfin pas vous, mais des statistiques et tout ça, comme quoi il y a beaucoup de tirs, mais c'est une fois que c'est une fois que Dortmund mène au score. À partir du moment où Terzic, il a passé 90 minutes à gérer l'avance qu'il avait au score. Quand il commence à faire rentrer Zule, passer en défense à 5, quand il commence à faire passer Marco Reus, etc. Donc après, tu peux dire, il y a les coups, il y a les poteaux, il y a les soucis.
Comme quoi, ça peut servir, hein. L'histoire, moi, quand Zule est rentré, j'ai dit, ah, dis donc, il va y avoir encore tous les génies qui vont dire, ah bah non, il faut jamais mettre un défenseur de plus. Ça dépend.
Non, mais
faut arrêter avec ces règles là. Mais oui, ça dépend. Et là, quand c'est fait de façon intelligente, eh
bien,
ils ont défendu.
Oui, quand ça fonctionne bien, etc.
Bien. Ils ont défendu vraiment, mais admirablement bien. Et Terzic, je le répète, qui a été pris pour un patron de bistrot pendant des mois là en France, on était là, ouais, c'est qui cet entraîneur là. Ben, il lui a donné une leçon au génie sur les deux matchs. Il a donné. Une leçon
il a surtout été assistant adjoint de Bilic, de Lucien Favre notamment. Donc ça doit aider aussi pour faire son propre parcours par la suite. Mais
après ce parcours là, même s'il perd en finale, ça y est, il fait partie maintenant du Gotha européen, quoi. Voilà.
Bah, je dirais pas Gotha européen parce que
déjà, moi je les donne pas perdants à tous les coups sur la finale parce qu'ils vont partir.
Combien de monde il y a dans le Gotha,
je suis sûr qu'ils vont arriver en finale en challenger parce que le vainqueur de l'autre côté sera le favori. Je demande à voir. Je pense que cette équipe est capable d'emmerder beaucoup de monde.
Beaucoup d'équipes.
Parce que je rappelle quand même que Terzic, comme entraîneur principal, il l'a fait que Dortmund. Voilà, c'est un jeune entraîneur.
Oui, enfin, faut connaître son histoire aussi. En fait, il a donné c'est un enfant de Dortmund. Hein, il est très aimé par Watzke, le président du club. Il lui a donné sa chance pendant un moment en faisant l'intérim. Bah, il a qualifié en 2020-2021, enfin plutôt les 6 derniers mois. Il a requalifié le Borussia Dortmund pour la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe d'Allemagne. Ça a l'air de rien, mais c'était en 2021. Ensuite, on l'écarte parce que Marco Rose arrive. Marco Rose, ça fonctionne pas. Il reprend les commandes. L'année dernière, il manque de gagner le championnat à la dernière journée. Il se fait beaucoup critiquer parce que le style de jeu qu'on voit, ce n'est pas l'ADN du Borussia Dortmund. Et cette année, il est en finale de Ligue des Champions. Et en fait, il a aussi beaucoup de chance parce que ça n'a l'air de rien. Mais le match de ce week-end où il fait un turnover complet à part le gardien Kobel, c'est parce que grâce aux résultats des clubs allemands, le Borussia Dortmund 5e est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Donc tout ça permet différentes choses. Mais depuis le début, avec Daniel, on appuie sur le fait que ce Borussia Dortmund, et je dis toujours Edin Terzic, il a une capacité de résilience qui est assez impressionnante, parce que faut voir ce que se prend Edin Terzic dans la presse allemande quand ça va pas, quand ils se prennent un 4-0 à domicile face au Bayern Munich, quand ils ne jouent pas lors des matchs de poule contre le PSG, le 2-0 où ils baissent leur froc en jouant une défense à 5 et qui sont dramatiques. Il faut voir ce que se prend Edin Terzic dans la tête. Et cet hiver encore, on ne savait pas, et ben il a été remis en place par Vazquez en disant oui, on s'entend bien, mais il y a un besoin d'évoluer, et c'est ce qu'a fait Edin Terzic, dans le sens où son 4-3-3, il le maîtrise, il n'hésite pas de mettre des joueurs sur le banc, même quand c'est des noms, certains noms, etc. On sait que la relation avec Marco Reus n'est pas terrible, etc. Mais force est de constater, encore une fois, qu'il a des résultats. Moi, depuis le début, c'est vrai que c'est usant. Edin Terzic, je peux t'assurer, quand tu le suis depuis 18 mois, c'est un peu usant parfois. Tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu joues tout de suite défensif? Pourquoi ceci? Alors évidemment, là, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, donc tu vas pas commencer à t'amuser à faire du Guardiola systématiquement. Mais on est quand même plus proche d'un Ranieri que d'un Guardiola comme coach. Et,
ouais, bien sûr.
Et Ranieri a aussi eu des résultats, faut pas l'oublier. C'est-à-dire, on est toujours dans le débat, est-ce qu'il faut que ce soit champagne ou des résultats? Force est de constater que le Borussia n'était pas favori de cette demi-finale, mais c'est aussi peut-être la faute au PSG. Je veux dire, tu disais les kilomètres parcourus, mais bon, le PSG a couru la même chose comme Adjani.
Soi-disant pas moins. Et en plus, pardon, mais techniquement, le PSG a pas non plus étalé une classe supérieure à celle de Dortmund.
Collectivement, la première mi-temps,
ça joue au ballon quand même. Hein.
Collectivement, la première mi-temps, j'ai trouvé le Borussia Dortmund supérieur à Paris, par exemple. Dans la façon de ressortir les ballons, commencer à piquer un petit peu avec Adeyemi, des petites choses comme ça. Eux, ils sont là aussi pour gérer le chrono. Faut pas l'oublier. Ils sont qualifiés lorsque l'arbitre siffle la première fois.
Hein. Et les deux mecs de côté qui sont certes irréguliers ont fait un aller et un retour de haut niveau. Adeyemi, Sancho ont été de très haut niveau sur les deux. Alors c'est vrai que c'est des gars irréguliers. Tu nous l'as assez dit et leur performance le montre. Mais quant à sur ces deux matchs qu'on a vus, moi je pense que tu aurais donné aux observateurs français et aux supporters, quels qu'ils soient en France, le choix entre Barcola, Adeyemi ou Sancho, on t'aurait dit, bah évidemment, Barcola, il est tellement au-dessus. Mais vous êtes des illuminés, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Je vois bien que Sancho a une carrière extrêmement chaotique et que c'est vrai qu'il a engendré beaucoup de frustration, mais on parle pas de la même chose. Et même Adeyemi. Alors Adeyemi, c'est vrai hein, qu'il est parfois un peu léger et tout. Bon, c'est un gars qui déjà a connu le haut niveau parce que la Ligue des Champions, il en est pas à sa première année. Et moi, je l'ai vu faire des allers-retours dans son couloir. Bon, bah franchement, il est pas mal le gamin, vraiment. Hein.
Ouais, c'est que des internationaux aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Enfin, le Borussia Dortmund, c'est la troisième finale
Vous parlez d'Adeyemi, Sancho, tout ça, très bien. Moi, ce soir, j'ai surtout vu les mecs, les milieux et les défenseurs, hein, qui ont été d'un sang-froid extraordinaire.
Mais
en fait,
les mecs devant, ils bossent dans le premier rideau. Fulkrug, là, oh, il n'arrête pas, Fulkrug.
Ça, il court, Fulkrug.
De cavaler. Bah ouais, mais ça, plus le but essentiel qu'il met au match aller, qui est un beau but en plus. Ah écoute, bilan positif pour lui. Milieu de terrain, Emre Can, tu te rends compte de la carrière d'Emre Can? Le nombre de fois où on l'a enterré, on pensait qu'il avait disparu de la circulation. Bah, oui, bien écoute, sûr. Au milieu de terrain, il fait plus que le taf.
C'est vachement intéressant parce que c'est pas le mec le plus doué de la terre, évidemment. Mais tu regardes sa saison, il fait presque autant de passes décisives que de buts. Il en marque 16, je crois qu'il doit être à 10 passes, etc. Alors on peut critiquer la façon de calculer les passes, etc. Mais en fait, in fine, quand tu fais le double-double, comme on dit, tu te rends compte qu'il fait une super saison. Et le mec, il était encore en deuxième division il y a 3 ans, quoi. Donc tout ça fait que...
Moi, les latéraux, je les aime bien, les latéraux. Moi, j'avoue que je les connaissais pas.
Madsen et Ryerson.
Ah, moi, j'aime bien ces latéraux. Et pareil, celui aussi qui m'a plu sur les deux matchs, c'est je sais pas dire vraiment bien son nom, Schlotterberg, là.
Mais j'aime bien aussi. Le central, oui. Bah ouais, mais il est bon quand
Schlotterbeck.
Schlotterbeck.
Voilà, Schlotterbeck.
C'est plus facile que Schweinsteiger.
Ah, Schweinsteiger, j'ai toujours bien réussi, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est vrai, je le tourne beaucoup mieux.
Ouais, mais il est bon mais vous savez que les deux, la charnière centrale de Dortmund normalement ne part pas à l'Euro. Schlotterbeck et lui-même ne part pas à l'Euro. Bah la charnière centrale du Borussia ne part pas.
Non.
Bah parce qu'il est bon surtout quand Mats Hummels est bon, parce qu'il s'est souvent planté et Nagelsmann on n'est pas sûr qu'il les prenne.
Pas mal du tout, ce défenseur.
Et Brandt, on a parlé de Brandt.
Très, très bon.
Solide, c'est lui, Brandt. On le dit depuis le début.
Bien sûr, c'est toujours très fiable, Brandt.
Ouais. Ah oui.
La belle mécanique.
C'est que les internationaux quand même, donc si tu veux.
Obsolescence programmée, tardive.
Oui, ouais, enfin, il va sur ses 29, là, mais c'est vrai qu'il a eu une carrière bah, un peu. Mais il faut aussi pas oublier.
C'était par rapport au frigo de Daniel. Ah,
Brandt aussi, c'est quelqu'un qui a eu une carrière où, au début, bah, il était annoncé comme une petite vedette, il a eu des trous, mais c'est un bon joueur, et il fait une très belle campagne européenne.
Bon, et alors, Polo, quand même, il est rentré, il n'était pas titulaire et tout, mais Zoule, c'est quand même un joueur d'un autre temps, ce mec-là. C'est-à-dire qu'il arrive.
Moi, je trouve qu'on le caricature beaucoup et c'est pas le pato qui a pas de pied, c'est pas vrai.
T'as l'impression que c'est un mec qui fait du catch.
Faudrait savoir.
C'est la WWE, là, tu sais. Oui. Mais c'est voilà, efficace.
Il n'y a pas que ça, il est très doué. Mais tu sais, Zülle, pour beaucoup de spécialistes en Allemagne, c'est l'un des plus gros gâchis des 20 dernières années du football allemand en défense centrale. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'hygiène de vie qu'on réclame aujourd'hui aux joueurs professionnels. Lui s'en fiche complètement. Quand il fait des interviews en disant « Oui, avant, j'allais au McDo tous les jours, aujourd'hui, j'y vais plus qu'une fois par semaine. » Voilà, c'est des choses comme ça.
Au moins, il est honnête.
Il fait le quintal. Ben oui, il est honnête, mais il dit des efforts. Mais à tel point qu'apparemment, on n'en veut plus de lui à la fin de la saison. Mais Zülle, je peux t'assurer que quand il est en forme, ben moi, c'était un mec que j'adorais. Hein. Mais encore une fois, voilà, il fait 100 kilos, il n'a pas l'hygiène de vie qu'on veut. Il est plus.
Tu penses que vraiment 100 kilos?
Ouais.
Alors, remarque, il est peut-être pas loin des 100 kilos, t'as raison.
Quand c'est une masse. Ben,
il fait 1m80, je sais plus, 95.
Il doit pas être loin du quintal. Hein.
Ah ouais, c'est un quintal, oui. Mais c'est un mec que moi j'ai toujours trouvé génial, mais bon voilà, je suis pas persuadé, mais tu sais, c'est comme Hinteregger, je sais pas si tu te rappelles, le défenseur autrichien, il est
ah oui, on s'en souvient avoir, bah lui, oui, de Francfort,
oui. C'est quelqu'un qui a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce que c'est des mecs qui se foutent par exemple des réseaux sociaux, ils sont pas là pour communiquer. Et lorsqu'il a envie d'aller prendre une bière, il va la boire. Il en paye les conséquences évidemment à très très haut niveau. Mais voilà, moi j'aurais plutôt une tendance à aimer ces mecs-là plutôt que d'avoir des robots comme Cristiano Ronaldo.
Ouais,
quoi. Mais
bon, après Polo. Tu le dis, tu te bats depuis des années, mais qu'est-ce qu'on fait comme caricature en France sur l'Allemagne, la Bundesliga, et c'est facile de marquer là-bas, et même des pipes qui vont là-bas mettre des buts, et un tel, et ils sont cramés, et on regarde pas, et on les prend tous à chaque fois on prend de haut et tout. Franchement, c'est pénible, mais on va peut-être avoir deux clubs allemands en finale et ils vont avoir cinq clubs en Ligue des Champions l'année prochaine et on regarde, je sais pas ce qui nous permet de regarder la Bundesliga de haut, j'arrive pas à comprendre et Fribourg contre Lens on a encore vu et enfin je sais pas
et on se départira
jamais de ces caricatures stupides. Non, parce que Leverkusen, tout le monde kiffe, tu sais pourquoi? Évidemment
parce que c'est Alonso.
Évidemment.
Parce que ça,
évidemment. Comme c'est un espagnol, tiens, en France, quand tu peux mettre dans un sac made in Spain, alors là, c'est nickel, c'est comme à Paris.
Non, mais il y a aussi autre chose.
C'est comme à Paris avec Jiffy le génie. Tu vois, à partir du moment où c'est espagnol, alors c'est vrai qu'il
se fait quand même une saison invaincue.
Non, mais Xabi Alonso, il est extraordinaire. Le Bayern Leverkusen est extraordinaire, mais Xabi Alonso, évidemment, c'est magnifique ce qu'il fait, la saison et tout. Mais bon. Voilà, on a découvert également un super joueur devant. On a des, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Et voilà, mais je trouve que
ce soit Dietmar Alonso Berger, voilà, ça serait pas pareil.
Je trouve qu'on met que Leverkusen, on regarde avec les yeux de l'amour et on a raison parce que c'est fantastique ce qu'ils font. Mais également, si c'était un entraîneur allemand, on ne serait pas aussi dithyrambique.
Bon, Polo, reste avec nous. On fait une courte pub et on revient avec Mbappé qui a continué de parler et qui a fait son autocritique. Intéressant à écouter quand même.
On a une suite.
Exactement, c'est dans quelques instants. Bougez pas, l'after revient dans quelques secondes.
RMC jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et Polo Breitner également, encore 10 petites minutes d'after et ensuite ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin pour revenir sur le match du PSG bien sûr, c'est ce qu'on continue à faire nous aussi puisqu'on va écouter Kylian Mbappé. Juste avant quand même Polo, j'ai un regret, on ne verra pas Daniel avec la coupe de Barcola. Et oui, c'était le pari de Daniel.
C'est vrai.
Bon, c'est foutu.
C'est vrai.
Faudra peut-être attendre 2025. ou 2026.
Enfin, je crois que ça m'aurait vraiment plu de la faire.
Ouais.
Soyez-en sûr.
Bon, Polo n'a pas fait de pari, lui, pour sa part.
Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va avoir sa finale 100% Bundesliga.
Écoutez Kylian Mbappé, qui fait son autocritique.
Là, j'ai essayé d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. C'était pas suffisant. Quand on parle d'efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le premier qui devait marquer ce soir, c'était moi. Maintenant, c'est la vie. Il faut se remettre de ça, continuer à travailler, que ce soit moi ou l'équipe. Et essayer de gagner cette Coupe de France parce que c'est un événement important.
Bon, voilà, j'espère reconnais qu'il n'a pas été bon.
J'espère néanmoins, j'ai peur qu'on ne l'ait pas parce que, avec ce doc, avec ces gens qui le suivent et tout, vous savez ce que je pense de cette com qui ne me plaît pas du tout. La façon dont, de ce côté-là, il construit sa carrière ne me plaît pas du tout. Je préférerais, ça n'arrivera pas, mais j'aimerais bien, d'ici la fin de saison et avant qu'il parte, une vraie interview bilan où il explique tout ce qui s'est passé cette saison, qui donne sa version. On aura le droit de contredire sa version, on aura le droit de dire quelque chose, mais qu'il la donne réellement, que ce soit pas des petits bouts par-ci par-là, avec le doc là en préparation pour Netflix qui sera juste une ode à Mbappé, et j'aimerais vraiment l'interview avec des gars qui lui posent des questions, qu'il ne s'échappe pas et qu'il dise tout de ce qui s'est passé depuis la mise au loft l'été dernier jusqu'à l'épisode de Monaco, et qu'il donne vraiment sa version, qu'il parle de sa préparation, et puis on pourra corriger, mais au moins il y aura un vrai échange, il y aura une vie réelle, il n'y aura pas une vie à travers un doc commandé, préparé et qui plaira à tous les fans et à ceux qui voudront bien le regarder, je sais malheureusement.
Polo, oui. Finissons quand même sur Dortmund avant que tu nous dises un mot du Bayern demain. T'as vu un peu les réactions ce soir? Est-ce que les Allemands...
Non, ils sont assez... ils fêtent beaucoup Mats Hummels, qui est quand même en fin de contrat. Ils appuient évidemment sur l'aluminium, hein, parce que ça, enfin les poteaux, pardon. Parce que c'est quand même... en Allemagne, on dit alu. Donc c'est, il y a du latte, etc. Mais l'alu, voilà.
Ouais, les 6 poteaux en 2 matchs.
Oui, non, mais d'accord, mais déjà les 6 poteaux, il faut voir à quelle période de la rencontre, il faut voir quand est-ce que ça se passe, etc. Si tu me dis que le PSG a été supérieur au Borussia Dortmund, parce que sur les 4 mi-temps, jamais le PSG n'a battu Dortmund. Il y a eu 1-0 la première mi-temps au match aller, un but lors de la seconde mi-temps. Ils n'ont jamais battu. Donc,
en deux matchs. Et le PSG a quand même mis beaucoup de buts cette année. Il mettait des buts à chaque match. Et contre Dortmund, 0.
Et ce qui est très frustrant avec Dortmund, c'est que tu prends les vidéos, tu regardes la défense du Borussia Dortmund, les 4 de derrière, avec même ceux qui défendent, tu te rends compte qu'il y a des trous, il y a des espaces. Sauf que quand tu regardes les résultats, notamment en Ligue des Champions du Borussia Dortmund, ils ne se prennent pas tant de buts que ça, finalement. Donc c'est un peu spécial, quoi. Voilà, mais c'est comme ça. Encore une fois, Edin Terzic a des résultats, sera le coach du Borussia Dortmund l'année prochaine. Et pour en revenir à l'Allemagne, ils sont évidemment très contents d'être en finale, mais ça sera de toute façon là 2022 Francfort, 2020 le Bayern, 2024 il y aura encore une finale au Monument de Ligue des Champions, voire Leverkusen. Donc ce sera évidemment une très belle année.
Ouais.
Donne-nous quelques infos du Bayern en vue du match de demain.
Je pense, même s'ils n'ont pas fait de conférence de presse post-match de Dortmund, que ça leur ferait mal de se faire éliminer à Madrid demain si le Borussia Dortmund est en finale, tu vois. En fait, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire quelque chose à Madrid. On ne sait pas trop encore quelle sera la compo, mais on parle quand même de Thomas Müller, ce qui me semblerait
surprise quand même. Pourquoi il fait ça?
Je préférais qu'il joue en contre systématiquement, mais les gens sont à peu près là, sauf Guerrero, évidemment. Comment il s'appelle, Thomas
Tuchel. Et la défense centrale?
La défense centrale, ce sera. Alors, De Ligt a été à l'entraînement, mais on ne sait pas si c'est lui qui sera titulaire. Donc, ce sera soit. J'ai plus son nom dit d'ailleurs, évidemment, et puis Minier, normalement. Mais De Ligt a fait un entraînement collectif. Donc
Minier, malgré son match aller, sera là.
Le problème, c'est que si c'est pas lui, tu prends Upamecano qui n'a pas 90 minutes dans les jambes et qui a la tête dans le seau. Donc, c'est. c'est un peu délicat, quoi. Davis et Tell, qui ont joué ce week-end, n'ont pas marqué de points, donc Mazraoui devrait encore une fois jouer dépanné au poste d'arrière gauche. Il est fort possible qu'on retrouve la compo du match aller ou à 90%. Match aller, ouais.
Bon, voilà. En même temps, les Allemands, ils ont cette culture de la Coupe d'Europe, on a encore vu ce soir.
Ils l'ont perdu, demain, hein, tu sais, il faut, ouais. Ils l'ont longtemps perdu, la culture de la Coupe d'Europe, hein, y compris les petites coupes, entre guillemets. Quoi, hein.
T'as fait la liste, tu viens de faire une liste, rien que sur oui, ces 3-4 dernières années, là.
Oui, mais ça fait du bien. Mais moi, j'analyse toujours le football allemand comme un phare dans la nuit du football européen. Donc, il y a les excès amenés via le capital, tout ce qui fout du pognon. Donc, après, c'est normal que tu sois un peu déclassé quelquefois. Mais lorsque tu reviens à des équipes à peu près normales, où le fair play financier fonctionne à peu près correctement, et encore, je rigole, mais tu arrives à des résultats plus logiques. Mais voilà, quoi.
Polo, on se retrouve demain soir.
Ouais. Voilà.
Tu seras là avec nous, bien sûr. Merci, à demain.
Merci, ciao, ciao.
Ciao, Polo.
Deux, trois infos, Daniel, avant qu'on passe la main à la libre antenne. Déjà, vous dire que Fluminense a officialisé le retour de Thiago Silva, donc, qui avait démarré sa carrière là-bas, hein, au Brésil.
J'ai peur que les infos pour finir l'émission, là, par rapport à la soirée qu'on a vécue.
Oui,
j'ai
mais
peur
bon.
Que ça intéresse moyen.
Bah, les supporters niçois seront peut-être intéressés de savoir que la presse italienne envoie aujourd'hui Florent Ghisolfi à la Roma. La Roma qui apparemment ils aimaient bien
le contact
un moment,
existe mais c'est pas fait.
Ils aimaient bien un moment comment s'appelle notre Florent Maurice. Là oui. Maintenant on parle de Ghisolfi. Info également qui concerne le Red Star qui monte en Ligue 2, parce que là on va peut-être inviter Patrice Salat d'ailleurs s'il veut bien en parler, parce que il y a un gros scandale aux États-Unis concernant 777 Partners, qui est le fonds d'investissement qui détient le Red Star, qui détient également plein de clubs, hein, Genoa, Hertha Berlin, Vasco de Gama, Standard de Liège. Et bah, tous ces clubs suivent de près ce qui se passe, parce que globalement ce fonds d'investissement s'est fait prêter 350 millions de dollars en mettant en garantie des actifs qu'il ne possédait pas. Donc c'est un peu gênant quand même.
Et je peux faire ça moi aussi
Bah, a priori non. Donc,
moi je veux bien, mais avec moins de millions je prends quand même.
Donc il y a quelques créanciers qui se sont réveillés. Tout ça se passe devant la bourse à New York, donc ça peut être chaud pour nous. Bah,
bon. Et pour ces clubs-là surtout, ça peut être chaud.
Bah, exactement, dont le Red Star qui est concerné. Et puis on reviendra, Daniel, dans les jours qui viennent également sur les auditions au Sénat concernant CDC.
Ah, oui, Roussier a été excellent aujourd'hui. Voilà. Excellent, Jean-Michel Roussier.
Le président du Havre a vidé son sac.
Alors il a exposé des choses dont on a beaucoup parlé dans l'émission, mais hein, c'est toujours bien quand un acteur qui a assisté à ça confirme tout ce qu'on a dit. Vraiment, c'est très intéressant ce qu'a dit Jean-Michel Roussier, évidemment.
Donc je vous la fais courte. Il a dit qu'en gros, il y avait un axe Labrune, El Relaifi à la Ligue qui est en gros
avec
décidé de tout.
Conflit d'intérêt, évidemment, mais ça on l'a dit, hein, quand je fais mon image, la poche droite, la poche
il
gauche.
Il a dit la présentation qui a été faite au club de CVC n'a pas été complète, elle a été tronquée pour permettre le vote à l'unanimité.
Bien
donc
sûr.
Là, il montre du doigt Vincent Labrune.
Évidemment.
Et il dit que la LFP a chassé Mediapro, il était le patron de Mediapro à l'époque, hein, en refusant de renégocier, et que le point de départ des problèmes vient de là, selon lui. Bon, ça peut être contestable, hein, il y avait quand même des problèmes avec Mediapro.
Oui, mais tu pouvais négocier moins.
Bon, voilà les infos.
Plus qu'aujourd'hui.
Avant de passer la main à la libre antenne, deux choses encore à vous dire. Un, n'oubliez pas la nouvelle chaîne de podcast, les archives de l'After, avec tous les podcasts de légende. Peut-être que celui de ce soir, dans quelques années, il sera aussi. Pour l'instant, on vous a mis en ligne une victoire du PSG 4-0 face au Barça. C'était le match aller de la remontada. Donc, si vous voulez réécouter les grands moments des Oscars historiques, ben, allez vous abonner à cette nouvelle chaîne. C'est sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes. Et puis, n'oubliez pas d'aller également faire un tour sur l'after.media pour vous abonner à la revue. 3,50€ par mois, c'est donné, c'est cadeau. Ils sont là, Nico, Thibaut et Oussem pour la libre antenne. Les gars, c'est à vous.
Amusez-vous bien.
RMC jusqu'à 12h30.
L'After Foot.